bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Original, soyez les bienvenus avec Leïla Kadhoudi.
Bonjour à tous.
Agnès sur scène, Daniel Morin.
Bonjour Agnès.
Albert Algou. Tanguy Passereau sera là tout à l'heure et notre invité Léa Drucker.
Bravo. Bravo.
Bonjour Léa, merci Bonjour. De venir à ce micro. Aujourd'hui, sortie de Roxane, ce film aux côtés de Guillaume de Tonquédec, Lionel Abelonski, avec lesquels vous avez eu l'habitude de jouer
plusieurs fois.
Séparément, oui, c'est ça, l'un
oui,
et l'autre.
Oui, bah, l'un et l'autre.
C'est Guillaume, votre bande.
Oui, c'est des gens que j'aime beaucoup. Ouais. On a même vécu ensemble dans un gîte pendant le tournage, tous les trois.
N'en dites pas trop, n'en dites pas trop. ça peut porter préjudice. Et Roxane, et donc Roxane, cette poule qui est la véritable héroïne de ce film, parce que c'est une poule lettrée, c'est pour ça qu'elle s'appelle Roxane.
Je ne vais pas vous interrompre. Non, c'est une poule qui a une très belle écoute aussi, puisque c'est elle qui permet à Guillaume de Tonquédec, qui joue le personnage de Raymond, c'est quelqu'un qui a du mal à communiquer avec sa famille, mais qui communique mieux avec sa poule à travers des grands textes de théâtre.
C'est ça. Alors vous êtes l'épouse de Guillaume de Tonquédec, qui est un éleveur, qui vend ses œufs bio à la coopérative, et en même temps, vous avez le mauvais rôle, parce que c'est vous qui acceptez ou refusez les crédits pour se développer, justement, pour continuer son exploitation. Est-ce qu'elle pourrait être vraie, cette histoire, ou pas ?
Elle est en partie vraie. Ah. C'est-à-dire que Mélanie Offrette, la réalisatrice, est inspirée de personnes qu'elle connaît bien. Cet homme qui parle avec sa poule est en est une référence à un homme qu'elle a rencontré qui parle avec ses vaches. Enfin, ce sont des éléments de réalité déguisés pour le film, mais qui en même temps racontent notre monde d'aujourd'hui.
Et qui raconte aussi les difficultés d'un éleveur à survivre parce que le personnage de Raymond
qui a besoin de quelques centimes de plus par eux. Oui.
Et en fait, la coopérative décide d'arrêter de se fournir auprès de ces petits éleveurs et préfère aller directement s'adresser à un gros éleveur pour éviter les coûts de transport.
Le méchant, Michel Jonas.
C'est Michel Jonas qui incarne le méchant dans ce film. Et c'est aussi comment on fait pour attirer l'attention du grand public sur sa cause. Et on a de plus en plus, pas que simplement des agriculteurs, mais qui vont publier des vidéos en ligne. Et ces vidéos, on espère qu'elles vont faire le buzz pour espérer que l'opinion publique les soutienne et que l'exploitation continue.
Ouais, parce que cette démarche n'est pas commerciale au début. Non. Elle est simplement de dire j'existe, je suis là. Et
je veux survivre.
Et je veux survivre, et voilà.
Sur les conseils de sa tante.
C'est vrai.
Liliane Robert.
C'est vrai.
Qui lui conseille de faire
le buzz.
Ce qui nous fait bien rire quand on voit le film, mais qui est en même temps très vrai. Ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui, Raymond a cette idée un peu folle qui va peut-être sauver sa ferme en créant un buzz.
Et donc, il va interpréter devant une scène très, très à l'écoute, un public très à l'écoute, en tout cas, des tirades. Moi, j'ai même découvert des tirades dont j'ignorais, enfin, j'avais pas présent à l'esprit le non merci
de
Cyrano qui est formidable.
C'est magnifique.
On a la tirade du nez évidemment, mais pas le non merci.
C'est bouleversant. Et d'ailleurs Guillaume de Tonquédec le joue admirablement bien parce qu'il joue cet agriculteur qui n'a pas l'habitude d'utiliser ces mots-là et qui tente grâce à l'aide d'une anglaise qui va lui apprendre à jouer, à bien jouer la ces scènes et qui s'applique et qui va finir par le dire merveilleusement bien parce que ces textes-là résonnent encore. Ils résonnent pour nous, il résonne pour lui. Il y a cette idée que peut-être par la poésie, par le rêve, on peut se sauver, on peut s'échapper d'un quotidien difficile, ce qui est peut-être utopique, mais en même temps c'est très humain de pouvoir imaginer qu'on va se sauver comme ça. Les textes très forts, ça, c'est très personnel à chacun, c'est la sensation que ces textes ont été écrits pour vous. C'est-à-dire quand ça résonne intimement, moi ça m'est arrivé de voir des pièces de Tchekhov et de me dire, j'ai l'impression qu'il a écrit ça que pour moi. Enfin, c'est universel.
C'est l'universel et l'individuel.
On avait Tchekhov la semaine dernière, il nous a parlé de lui.
Je l'embrasse.
Lui aussi.
Allez, des questions concernant Léa Drucker avant de revenir sur ce film Roxane qui sort aujourd'hui. Quel animateur de France Inter a fait débuter Léa ? Un animateur de France Inter a fait débuter Léa.
Ils sont tous passés par France Inter.
Édouard Baird.
Exactement. T'es pas obligé de vomir en donnant vraiment ça.
Je prends ce jeu très au sérieux.
Il est venu de loin, Edouard Baird. Oui, exactement.
Edouard, il m'a fait débuter à la radio.
À Radio Nova.
Voilà, à Radio Nova, et il m'avait donné un petit téléphone portable. À l'époque, on n'avait pas de téléphone.
C'est un bibop.
Et il m'avait dit, bon, tu vas dehors, tu nous trouves des gens dans la rue pour que Ariel Wiesman et moi, on puisse dialoguer avec eux en direct. Donc, je passais 2 heures par jour dans les rues de Paris à essayer de trouver des gens, intéressants, qui pouvaient dialoguer avec eux pendant leur émission.
Alors, la grosse boule.
Voilà.
Ça, c'était son, c'est le titre d'émission. Il faut préciser quand même. Ça, c'était son idée, mais comment s'est fait le contact? Vous êtes allé demander à faire des essais, vous vouliez faire de la radio?
Non, mais c'était beaucoup plus simple que ça. Moi, j'étais comme une jeune comédienne au chômage et c'était un moment où j'avais besoin de travailler. J'ai appelé Edouard, qui était un copain. Je lui ai dit, à tout hasard,
voilà, ça commençait comme ça.
Je lui ai dit, est-ce que t'aurais du boulot pour moi à la radio, n'importe quoi, ce que tu veux? Et il m'a dit, ah non, mais passe nous voir. Et je suis arrivée et ça a été fait spontanément, quoi.
C'est-à-dire... Et vous connaissiez comment? Par des cours de comédie?
Alors, moi, j'étais à l'école de la rue Blanche. Edouard, il était chez Florent. On avait des copains en commun. On s'est rencontrés dans une pizzeria, vraiment, où il y avait une grande tablée de comédiens en goguette un samedi soir, et il a traversé la table pour m'offrir un ballon, et voilà, j'ai été conquise, et l'amitié s'est scellée comme
le
ça.
Le métier du gars,
merveilleux. Ah ben oui, c'était
le lover.
Pizza ballon.
C'était un peu un film de De Broca, quoi. Une scène d'un film de De Broca.
Inquiétant si j'ai ça aujourd'hui.
Ou pas du tout, au contraire.
Léa Drucker a une passion pour le coca. Elle a une passion pour les tubes de Top of the Pops, l'émission anglaise, et pour des encas, mais des encas parfumés à quoi?
Au bacon.
Pas loin.
Au saumon, au sésame,
au
fromage, au cheddar,
au bacon.
C'est un fromage.
Au bleu.
Le Munster. Le
au Stilton.
Camembert. Fromage, c'est vrai.
Roquefort.
Munster. Non.
Et poisse, c'est ce qu'on peut manger. C'est un truc français.
Non, ça me fait rire.
Tibili,
le cheddar.
Saint-Nectaire.
Alors, c'est un saint, oui.
Reblochon, non.
Non,
Saint-Mandé.
Non.
Saint-Mandé.
Non, non, un vrai, pas un truc industriel. Un vrai.
Saint-Marcelin.
Oui.
Saint-Marcelin.
Oui, d'ailleurs, il y en a deux. Écoute.
Saint-Saint.
Ah non.
C'est votre copine d'enfance, Christine Robet, qui a raconté ça.
Ah bah bravo, Christine, merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, Christine Robet, ma copine que j'ai rencontrée à Lyon quand j'avais 13 ans, et avec qui j'écoutais de la New Wave, et je faisais des chorégraphies, et on regardait Rusty James en boucle.
Excellent.
Et on mangeait du Saint-Marcelin dans la cuisine de ses parents, oui. À caluire et cuire.
Mais ouais. Vous êtes toujours aussi éclectique et soigneuse dans vos goûts alimentaires?
Non, dans le fromage, je rigole pas. Sur le fromage, je rigole pas.
Ah bon?
Non, mais c'est vrai, j'adore
vous
ça.
Vous êtes une intégriste du fromage?
Oui, c'est vrai, j'adore
ça. De quel
ça.
Lait? Vache, brebis, tout, chèvre? Tout.
Tout. Tout me va. C'est-à-dire que je pourrais faire des régimes, je pourrais faire tous les régimes du monde, mais pas celui-là.
Ou quoi, un régime anti-fromage.
Bah, si on me disait, madame, il faut arrêter le fromage, ça va plus du tout.
Non, c'est le fromage, c'est le lait de vache qui est pas bon normalement pour les adultes.
Je m'en fous. Pour l'instant, je m'en fous. On verra plus tard, mais pour l'instant.
Moins de 1 kilo par jour.
Quel est le rapport particulier de Léa Drucker au livre Voyage au bout de la nuit de Céline?
Elle a jamais réussi à le finir.
Ah ouais,
elle a lu plusieurs fois. Elle déteste Céline parce qu'il était antisémite. Donc elle ne peut pas lire Céline.
Non.
Elle l'a lu 150 fois.
Elle l'a lu à l'envers.
Au contraire, j'ai envie de dire.
Non. Elle l'a jamais lu, elle veut pas le lire.
Alors,
elle l'a vu au théâtre, mais elle l'a pas lu.
Au début, elle l'avait jamais lu.
Ouais. Elle l'a lu sur le tard.
Mais oui.
Elle l'a aimé.
Elle l'a lu en anglais.
Elle l'a lu en 10 ans.
Non.
Elle l'a lu à haute voix.
Elle l'a traduit. Non. Elle l'a joué avant de le lire.
C'est pas loin.
Je l'ai écrit.
Elle l'a entendu avant de le lire elle-même.
Elle a mis en scène Lucini.
Elle a vu une adaptation avant de le lire elle-même qui lui a donné envie.
Non. Elle a recopié.
Elle voudrait le jouer.
Elle ne l'avait jamais lu, puis maintenant elle l'a lu, mais entre-temps...
Elle l'avait pas lu.
Oui, ça c'est sûr.
On avance.
Bonne réponse de Daniel Bourg. Non, pas loin.
Entre-temps, elle a voyagé.
Non.
Elle a lu d'autres Céline.
Ouais. Non.
Mort à crédit. Non.
Non.
Non. Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Attends, elle a lu. Elle a pas lu. Bah,
un truc très.
Elle a médité.
Très parisien. Très.
Elle a fait tomber la pizza d'Edouard Baird sur le livre. Qu'est-ce elle a pas pu
elle
lire.
Elle s'est baladée devant les endroits clés.
Très. Il faut.
Elle a bu. On lui a raconté. Elle a fait semblant de l'avoir lu pendant
exactement.
Un certain temps.
Exactement.
Ah. Prétendu. C'est possible. Oui.
Exactement.
Oui. Je me souviens.
Exactement.
Oui, j'en ça, un moment c'était mythomanie comme ça.
Exactement. Ah oui, évidemment, Céline.
Magnifique. Oui, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, c'est ridicule. Non, mais on m'avait posé la question. C'est vrai que j'ai dû faire ça. Ouais.
Peut-être pour ne pas être prise en flag de ne pas l'avoir lu. Puis un jour,
oui,
vous avez craqué.
Ça, c'est des complexes souvent. Oui. C'est des complexes culturels. Oh là là, il y a des grandes conversations avec des gens qui disent ah là là ce livre et on n'arrive pas à dire non mais moi je l'ai pas lu. Mais j'ai arrêté ça.
Alors j'ai un copain qui faisait...
Mais par contre, j'ai lu et je suis tombée à genoux devant ce livre.
Un copain qui faisait pire, je vous donne ça comme truc, parce que c'est très malin. C'est dès l'instant où il y a dans un repas un sujet qui part sur quelque chose qu'il ne connaît absolument pas, il se met en position d'être contre. Il dit, moi je trouve ça, mais c'est honteux, c'est n'importe quoi.
Ah, ça c'est pas mal aussi.
Donc il n'argumente pas sur qu'est-ce qui est bien, et il pousse les autres à défendre soit l'œuvre, soit la pièce de théâtre.
Alors qu'il l'a ni vu, ni
il l'a jamais vu. Oh, il l'a jamais vu.
Et quand on embrasse Pierre Lescure.
Mais crée le débat, c'est
vrai. Voilà, exactement. Et un jour je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, et il m'expliquait que c'était pour voir à quel point, jusqu'où l'autre était prêt à aller par amour pour une œuvre de théâtre ou pour un film.
Oh, bah, c'est malin, je trouve ça.
Et en même temps, lui se mouillait jamais.
Jusqu'à ce que quelqu'un lui demande ce qui lui déplaît dans cette œuvre.
Non, même pas. Parce que c'est vrai que souvent le cas, c'est ceux qui défendent. Mais non, tu peux pas dire ça. Parce qu'il y a ça, parce qu'il y a pas ça. Enfin, c'est assez malin. Et pourquoi alors l'avoir lu si tard? Parce que pourquoi ne pas avoir joué jusqu'au bout?
J'ai commencé à le lire jeune, j'ai pas réussi. Et puis je m'y suis mise il y a quelques années. Et ça a été un choc littéraire, un choc de lectrice, tout simplement. Et un livre vraiment essentiel pour moi. C'est un des livres qui m'a le procuré le plus de bonheur. Je dirais pas ça parce que c'est une vision de l'humanité qui est quand même très sombre, mais que je trouve très juste. Enfin, que je trouve qui me parle en tout cas. Et c'est drôle parce que j'avais rendez-vous un jour avec un réalisateur qui s'appelle Nadav Lapid, qui est israélien, j'ai participé à son film. Et je ne connaissais pas Nadav, et j'avais le livre dans ma poche, et je lui dis, non mais, dans la conversation, je lui dis, non mais moi, j'ai un livre, là, que j'ai Céline, là, dans ma poche. Oh, c'est incroyable, moi aussi. Donc, il y avait
un deal,
en gros, de juifs qui parlaient de Céline dans un café, ça crée du lien.
Non, et vous étiez superbe dans Synonyme. Vous étiez superbe dans ce film.
Quel voyage Léa Drucker a-t-elle fait avec sa maman à 18 ans?
Aux États-Unis.
On va dire initiatique.
En Australie. Retour sur la recherche des anciens, des ancêtres, des aïeux.
Pouilles, Auschwitz.
Un voyage.
On va s'arrêter deux secondes.
C'est pas facile de parler d'une comédie après.
Mais Auschwitz.
L'art de l'enchaînement.
La vache.
Alors ça.
La névrose d'Agnès Surstel, quoi. Ah. Les pouilles et Auschwitz. C'est waouh.
Les pouilles. T'as bien dit les pouilles. En Italie.
Non, t'as dit les poules.
Non, t'as dit les pouilles. Bah, je sais pas, c'est les dessinateurs. Qui me sont venues
les pouilles et Auschwitz, c'est-à-dire que comment tu peux rapprocher les deux, je ne comprends
ça
pas.
Ça fait chier.
Bon, ok. Donc c'est un voyage. Alors c'est pas tant le pays qui est important, c'est la manière de s'y rendre aussi.
En bateau,
à pied, Saint-Jacques de Compostelle.
Non.
En Sibérie, au Canada, en train.
Non.
L'Orient Express.
En Pologne, en train.
Le jour où tu vas au Canada, en train, tu m'appelles.
L'Orient Express.
Non.
Venise, en train.
Non.
En Corse, à la rame.
Non.
Non plus. C'est pas du train, donc.
Ouais. En bateau, c'est un bateau.
Commencez par le
voilier.
Si vous trouvez le moyen de locomotion, vous trouvez le pays.
Le moyen de locomotion.
Si vous trouvez le moyen de locomotion, vous trouvez le pays.
Le vélo, la Hollande.
À Bangkok,
exactement.
En tuk-tuk.
Ouais, t'as tout trouvé. Vélo, Pays-Bas.
Vélo, oui, Pays-Bas avec ma mère. Et une tente. Une tente de camping.
De camping. Ah.
J'aime bien si vous la mettez sur le dos en même temps, mais on est à la radio, donc vous ne voyez pas très bien.
J'ai fait ça, oui, oui.
Ouais, voyage pour les Pays-Bas à vélo, c'est...
Mais ça se fait, hein.
C'est pas
ça
la porte à côté.
Ça dépend d'où tu pars.
Ça se faisait à l'époque. Non, c'était très confortable.
C'est
même.
Vrai.
C'est très plat, c'est le plat pays.
Non, mais il faut y aller, c'est plusieurs centaines de kilomètres.
Ah, je suis pas parti. On n'est pas parti de.
Ah, tu vois,
vous êtes parti
de Normandie à vélo.
Non,
on est à Amsterdam. On y est allé en Berlin. Non.
On s'est fait déposer à la frontière. Après, on a pris l'avion jusqu'à Amsterdam. Et on a fait 500 mètres. Hyper confortable.
C'était pour renouer le tissu mère-fille. Non, je plaisante, parce que le tissu se tenait bien, hein, quand même. Non, mais c'était marrant, ce voyage avec ma mère en vélo.
Mais pardon, alors, il y a bien un pourquoi, non? Il y a bien quelqu'un
qui
le tissu. Le loisir, les vacances, un peu d'Amsterdam, un peu de Moulin, un peu de cheat.
Ah, les deux, comment ils sont jetés dessus.
Ah, c'est pas illégal là-bas.
C'est honteux.
Oui, c'est vrai.
Une réponse que pourrait faire régulièrement Léa Drucker à une question, une manière de répondre qui pourrait la résumer, ça serait quoi?
Non, mais. Peut-être.
Fous-moi la paix.
Je ne sais pas.
C'est dans l'idée.
Il faut en parler.
S'il n'y a pas Nagui.
Voyons.
Voyez mon agent. Voyez.
Non.
Oui, mon agent, c'est horrible comme réponse.
Peut-être.
Pourquoi pas.
Exactement. c'est le pourquoi pas qui apparemment vous va bien. C'est-à-dire que c'est une manière pour vous de, à la fois de procrastiner, de ne pas dire non à un projet, mais de ne pas non plus dire oui tout de suite. Ouais.
C'est ça, vous trouvez? Non, pourquoi pas? C'est plutôt l'idée que les choses restent ouvertes et qu'on a. Moi, j'ai pas tellement. Enfin, je peux avoir des certitudes à certains moments de ma vie et puis.
Ça peut être aussi de ne pas avoir d'a priori.
Moi, j'ai pas du tout d'a priori.
Ça se tente, quoi.
Je me laisse parfois. Ça m'arrive de changer d'avis, voilà, tout simplement. Et de...
Qu'est-ce qui vous tente dans un projet?
Le fond.
L'histoire ou les gens avec qui vous pouvez la construire?
Mais je pense qu'on peut faire des choses très bien avec des gens avec qui on s'entend pas forcément.
Ça, c'est vrai. Tous les jours, on le fait.
C'est vrai que si, humainement, c'est vrai que je me sens toujours attirée par des gens que je me dis toujours, bon là, j'ai envie de partir avec cet homme ou cette femme sur ce projet-là. Mais c'est vrai que c'est souvent le fond, l'histoire, le sujet, même par exemple, que ce soit un drame ou une comédie, par exemple, ce sujet de Roxane, je trouvais vraiment à la lecture qu'il y avait quelque chose de... Je connaissais pas Mélanie Offred, c'était son premier film, elle avait 27 ans. Il y avait quand même cette idée quand même très saugrenue d'un homme qui parle avec cette poule. Je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner? Et en même temps, il y a quelque chose qui m'attirait profondément parce que j'adorais ce personnage de Raymond. J'adorais Raymond. J'étais un peu amoureuse de Raymond. J'aurais été un homme, j'aurais voulu jouer Raymond. Donc j'étais amoureuse de cet homme-là et je me suis dit, bon, bah, alors jouer sa femme, ça m'intéresse. Et en plus, je trouvais que le sujet me parlait. Voilà,
le
monde que ça raconte m'intéresse.
Continuons. Son épouse est amoureuse, mais elle le suit pas dans son délire.
Mais elle incarne la réalité. Je la comprends aussi, Anne-Marie. C'est pas un personnage que je trouve négatif du tout. C'est un personnage qui est ancré dans une réalité, la nôtre. C'est-à-dire qu'elle est employée de banque. Elle est face au quotidien à des agriculteurs qui sont en risque de faillite, en risque de surendettement ou déjà en surendettement. Donc cette menace-là, elle la sent peser sur elle, sur sa famille, sur son mari qui a cette exploitation. Et puis dans ces régions-là, enfin ce qu'on a vu nous sur le tournage, puisqu'on a rencontré les agriculteurs, ils travaillent aussi en famille. C'est-à-dire même si cette femme, elle travaille à la banque, le week-end, elle vient donner un coup de main avec les enfants.
Elle fait les comptes de l'exploitation.
Donc c'est pas deux mondes qui vivent séparément, mais c'est surtout que elle voit ce que c'est que la réalité. Et cette réalité-là aujourd'hui a tendance à dire et redescend sur terre parce qu'on est en péril. Oui. Et ça, je trouve ça résonne.
Et surtout la chef d'agence qui la remet dans le droit chemin à chaque fois, qui lui dit non, c'est pas possible, qui lui fait comprendre que c'est complètement utopiste de vouloir régler les problèmes de personnes qui sont déjà en situation de précarité, de surendettement.
Alors c'est pas vraiment le droit chemin, c'est lui, il la remet les pieds sur terre.
Dans son droit chemin,
dans son droit chemin de banque. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de jouer un personnage qui se retrouve dans un dilemme. Et elle est vraiment dans un dilemme entre l'amour qu'elle a pour sa famille et pour son mari, et en même temps la réalité qui arrive et qui va leur tomber dessus. Et moi, j'ai de l'empathie pour cette femme parce que je la comprends complètement aussi.
Mais c'est un film très tendance.
Finalement, oui.
Parce que on est dans le bio, on est dans le rapport direct d'éleveur à consommateur. On est dans le buzz justement et dans ces vidéos pour dire j'existe. Vous aussi venez acheter mes œufs ici et sauver mon exploitation. Donc il y a
C'est fait avec énormément de sincérité. Et je ne sais pas si elle avait conscience d'être à ce point dans l'air du temps, mais ce qui est sûr, c'est que les belles histoires, les beaux films, ils se font sur cette sincérité, sur cette nécessité à vouloir raconter cette histoire-là, à un moment donné. Il se trouve qu'en effet, là, aujourd'hui, on est pile dans ce qu'on lit dans les journaux. Mais tout ça n'a pas été fait avec malice. C'est juste que ça a été fait avec beaucoup de cœur et beaucoup de...
Oui, parce que vous dites donc que Mélanie Offret avait rencontré un agriculteur qui lui récitait du Cyrano à ses vaches.
À ses vaches, oui. Et c'est vrai que le monde agricole, je crois, d'après ce que j'ai entendu, d'après les témoignages que j'ai reçus, les gens s'expriment, il y en a beaucoup qui s'expriment peu. C'est un travail quotidien qui est très dur, physiquement très, qui est épuisant. Donc, j'imagine très bien un homme seul dans son exploitation et qui tout d'un coup se prend à réciter des textes. Moi je le faisais dans ma chambre, mais moi j'étais une jeune étudiante, citadine, etc. Mais tout d'un coup c'est un refuge, la poésie c'est un refuge,
ça j'en suis convaincue. Parce que vous caressiez le rêve de devenir actrice, ce qui n'est pas le cas de cet agriculteur qui lui simplement est touché, est ému par les mots. Il en découvre le poids, la résonance, cette émotion. Il réunit ses poules comme une espèce de théâtre.
Il a un public.
Ouais, c'est ça. A son public. Il y a des scènes d'ailleurs extrêmement drôles où quand il demande le silence entre guillemets dans la salle, toutes elles lèvent la tête en même temps. Ouais. Alors au-delà des trucages et du cinéma, mais c'est extrêmement jouissif de voir ça parce que c'est pas un fou, c'est pas le fada, c'est pas le fou du village, quoi. Il est extrêmement sincère. Et finalement, c'est ça qui fait passer tout d'une manière très naturelle.
Il s'en sort comme ça, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à un moment où il se sent en effet en péril. Il sait pas
il
comment.
Il veut rien lâcher.
C'est quelque chose qui lui est nécessaire. Et il est épaulé pour ça par une Anglaise qui est jouée magnifiquement par Kate Duchesne.
Qui est une ennemie.
Qui va le coacher. Il va trouver.
Elle est ennemie au départ.
Elle était ennemie au départ parce que c'est la voisine, c'est celle qui a une maison d'hôte un peu chic à côté de chez eux. Et donc il y a une guerre de territoire
Il lui démonte son panneau.
Elle va l'aider à s'ouvrir en fait. Et parallèlement à ça, sa femme, elle, va lui reprocher. Donc le personnage de Anne-Marie que je joue va le dire à son mari, mais tu nous dis rien. Ils ont un problème de couple aussi qui est un manque de communication.
Oui, et puis elle va aller plus loin. Elle toujours dans son avec son côté terre à terre, ce qui est paradoxal face à un agriculteur. Elle se prépare à la suite. Elle se demande s'il faut pas liquider l'affaire. Et elle veut toujours être dans le chemin du système, alors que lui ne veut rien lâcher.
La reconversion, elle lui parle d'une reconversion.
Et puis on parle pas de Lionel Abelansky, qui a aussi un rôle
qui joue
clé.
Mon frère, et qui est un lui aussi, il est en péril aussi. Il est très drôle d'ailleurs par ailleurs dans le film.
Comme souvent, oui.
Oui, et qui lui est le complice de Guillaume dans le film. Mais c'est une histoire familiale aussi, comme c'est souvent le cas dans les exploitations agricoles. C'est des terres qui ont été transmises de génération en génération, c'est quelque chose.
Est-ce que la chute qu'on ne va pas divulgager, est-ce que la chute est possible? Est-ce que c'est crédible le film jusqu'au bout?
Ah, moi je veux croire que oui.
Ok. D'accord, très bien. Donc, à voir et à rêver. Roxane, c'est aujourd'hui au cinéma.
Si on est optimiste.
Avec Guillaume, pardon.
Ça dépend si on est
optimiste. On peut aussi décider d'être optimiste, c'est
oui,
ça.
Oui. Ouais.
Avec Lionel Abelansky, Guillaume, de ton Québec ou de ton Quedec?
Ton Quedec. Moi, je dis ton Québec, mais on fait comme on veut.
D'accord.
Avec Guillaume, on est très tolérant, Guillaume.
Et avec Léa Drucker, Kate Duchesne, Liliane Rovert, Michel Jonas aussi en méchant.
C'est bien d'avoir un méchant qui est joué par Michel. Jonas, ouais. Parce que du coup,
et la fesse, et Jean-Yves La Fesse aussi. Jean-Yves La Fesse en responsable de la coopérative. Dans Jack Lang, c'est un film qui va avoir un succès considérable.
Yes, très cher Nagui, un succès qui relève de l'évidence, puisqu'il est servi par les comédiennes, où il y en a parlé aussi remarquable, que Léa Drucker, Liliane Rovert, sans oublier la poule Roxane, dont en la voyant si belle, en train de caqueter avec le formidable Guillaume de Tonquédec, ou ton codec, je n'ai pas pu m'empêcher de m'écrier « Ah, la belle caquette !» Bon, je sais, la poule caquette, le coq chante. Ce sera aussi un succès, car la thématique de ce film va dans le sens des aspirations de plus en plus marquées, vous l'avez dit, très tendance, vous le disiez tout à l'heure, de nos concitoyens pour tout ce qui est sain et naturel. C'est ainsi que moi-même et mon cousin Jacques, chez Zouzou Coiffure, pour notre coloration rajeunissante noir corbeau, qui nous fait paraître 30 ans de moins, que je vous conseille, Nagui, nous avons renoncé au shampoing à base de glycérine, exalimétrine, exodibenzomorphone, éthanolamine, des tas de saloperies chimiques et eczémateuses en in. Et nous optons désormais pour une teinture régicolore, bio, à base d'encre de sèche, de charbon de bois, de chocolat qui a fondu 95% de cacao et de cirage pour Rangers. Mais revenons à Roxane, dont le succès sera d'autant plus mérité que ce film démontre admirablement les affinités entre aviculture et culture, puisqu'en effet, il est prouvé que les poules peuvent aussi bien se nourrir de vers de terre que de vers d'Edmond Rostand.
Oh, joli.
Voilà, c'est beau. Ouais. Ça vous plaît. Ceci dit, cher Léa Drucker, la préparation de cette émission ne fut pas de tout repos. Quand, juste avant les infos de 11h, tout à l'heure, Nagui a lu votre nom sur l'emploi du temps, ivre de rage, il a tout de suite appelé JNB, notre rédac chef, qui s'est agenouillé devant lui en bafouillant malgré les coups qui pleuvaient sur sa teuté. « Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde, et je suis et serai jusque dans l'autre monde, celui qui vous aime sans mesure. »« Ah, mais tu fais le lèche-botte en alexandrin maintenant. »« Mais, ô monseigneur et maître, ce sont les dernières paroles que Cyrano adresse à Roxane. » Mais justement, c'est pas Léa Drucker qui est déjà venue, quand c'était en cercle, qu'il fallait inviter. C'était Roxane La Poule. Elle, au moins, j'aurais été sûr de la faire glousser. Voilà, chère Léa Drucker, comment se prépare la bande originale.
Bien sûr.
Dans l'ignorance des grands classiques, les coups, toujours les coups, encore les coups, et une vision pour le moins machiste des Gallinacés. Bonne émission quand
Merci
même.
Merci Jean-Jacques Lang.
Nagui, la bande originale.
Et la très bonne musique originale de ce film est jouée, composée, écrite et interprétée par Gaëtan Roussel.
Ce que tout le monde fuit, et fuir peut-être ce que tout le monde suit. Survivre à ce que tout le monde dit, crier sans doute ce que tout le monde en fuit. Et fuir ce que tout le monde suit. Vivre peut-être ce que tout le monde fuit. Oser ce que tout le monde en fuit.
J'adore cette chanson.
Elle est super, ouais, j'adore. La musique, elle est parfaite dans ce film. Elle participe vraiment, elle n'est pas juste là pour accompagner. Dans le côté vraiment montée d'émotion, je trouve que c'est hyper bien vu.
Oui, oui, je suis d'accord, j'aime beaucoup aussi.
Mélanie Offredsin, son premier film, donc, avec vous, Léa Drucker, Guillaume de Tonquédec, Lionel Abelansky, s'appelle Roxane, c'est aujourd'hui au cinéma. Et Agnès Surcelle, c'est tout de suite à la radio. Ah.
Bonjour, comment allez-vous ?
Mais très bien.
Moi, je ne sais plus parce que j'adore les cadeaux, j'adore les vacances, j'adore les jours fériés. Je suis une vraie petite michto du jour off et de la surprise. Mais faut pas me la faire à l'envers. Moi, j'ai besoin de savoir d'où vient la cam. Est-ce que c'est made in France ou pas ? Je veux savoir pourquoi c'est un jour off. Est-ce qu'il a été inventé par quelqu'un que je respecte ou pas. Si évidemment on fête une défaite allemande, c'est encore plus une joie, évidemment. Eh bien, la Pentecôte, je n'ai pas compris. Et personne n'est d'accord. J'ai questionné mes proches ce week-end. Des êtres absolument charmants, des gens en qui j'ai confiance, qui peuvent me dire quand ma chronique est vraiment très nulle ou quand j'ai une crotte de nez, donc des êtres rares. Et ben, il n'y en a pas un qui a pu me dire pourquoi lundi j'avais le droit d'être dans le sud à manger des bulots frais et non pas sur la ligne 2 à respirer de la moule pas fraîche. Oh. On n'est pas sûr de ce chiasme, hein. Je vois Leïla. Ouais, on n'est pas sûr. C'est visuel, mais il est peut-être un peu tôt.
Ouais.
Et en même temps, est-ce que c'est vraiment un chiasme? Si tu veux, quand on est là, à la radio, à faire ce genre de blague, c'est que déjà ta cagne est très loin derrière toi.
Ouais, c'est vrai.
Moi, ça fait 8 ans que je régresse intellectuellement, hein. On s'y fait. Donc, je pensais que la Pentecôte, c'était le 50e jour après Pâques, quand Jésus est soi-disant réapparu aux apôtres parce qu'il avait oublié quelque chose, mettons ses chaussettes. En tout cas, les gars avaient déjà, à mon avis, bien entamé le cubi de rosée, puisque les apôtres ont entendu du vent, puis vu un feu se propager, puis ils ont parlé d'autres langues. Voilà ce qui me reste de mes cours de catéchisme. Et donc ils se sont dit, c'est Dieu. Alors que mes amis et moi, ce week-end, à l'heure de l'apéro, c'est-à-dire quelque part entre le petit déjeuner et le coucher du soleil, quand la tempête Miguel a lancé des rafales de 110 km/h sur le jardin, que mon pote a failli se cramer le sourcil parce qu'il a allumé une cigarette à l'envers et qu'on s'est tous mis à parler en anglais pour pas que l'enfant des amis comprenne qu'on allait le foutre au pieu, personne n'a eu la prétention de dire que c'était Dieu. On était tous à 7 grammes, il n'y avait plus de pH neutre nulle part dans nos corps, point. Bon. Et c'est finalement l'enfant de mes amis qui m'a apporté la solution. Un enfant de 2 ans et demi, déjà vraiment très élaboré puisqu'il connaît déjà tout le boléro de Ravel par cœur, chaque instrument. Il sait comment on appelle ce doigt-là et ce doigt-là. Et il s'est mangé des spaghettis
l'annulaire et l'auriculaire, hein, pour ceux qui sont à la radio.
Et moi, je
ne sais
pas.
D'accord,
voilà. Ok. Il s'est mangé des spaghettis sans se tâcher. Moi, je 3 choses que je ne sais pas faire. D'ailleurs, si quelqu'un pouvait arrêter de nous envoyer des gourdes et m'envoyer plutôt un bavoir, ça m'aiderait beaucoup plus. Bref, c'est cet enfant de 2 ans et demi, qui nous a expliqué que c'était pas du tout ça, la Pentecôte. La Pentecôte, en fait, maintenant, c'est apparemment la journée de solidarité envers les personnes âgées et handicapées. Loi votée par Raffarin suite à la canicule de 2003 dans laquelle il a apparemment perdu sa femme.
Non, ça va pas, t'es fou.
T'as
pas le droit.
Ouais, on était mieux avec la moule pas fraîche. Et que le lundi de la Pentecôte serait donc censé être un jour férié, mais non chômé. voyez la différence, ouais, ouais, ok. Mais que depuis 2008, c'est à nouveau un jour chômé, et qu'en pratique, l'employeur cotise, et que le salarié voit sa rémunération annuelle baisser d'une journée, et que certaines entreprises compensent unilatéralement avec un jour de salaire perdu et par un jour de congé payé octroyé sans contrepartie, mais que certaines entreprises ne déduisent plus cette journée parce
c'est
que
exactement
tu sais quoi, et que ces dernières sont soumises à la cotisation salariale. Enfin, certains salariés travaillent une journée supplémentaire et de leur choix ou imposés. Bref, cet enfant est incroyable. J'ai toujours pas compris.
2 ans et demi, hein, tu dis.
Ouais, mais je suis vraiment très contente de l'avoir rencontré, ce petit être, parce qu'il m'a promis que l'année prochaine, il s'occuperait de ma déclaration aux impôts, parce qu'apparemment dans sa crèche tout le monde est hyper calé niveau prélèvement à la source, compte de spectacle intermittent et autres aspects lugubres de ma vie. Voilà, donc moi je vais pouvoir continuer à régresser et attendre le prochain apéro ou le prochain Messie, peut-être c'est la même chose. Voilà, bonne semaine.
Merci Yann Sursel. La bande originale. Merci. Sur France Inter. Roxane, le nouveau film avec Léa Drucker, Guillaume Tonquédec et Lionel Abianski, c'est l'histoire de cet agriculteur qui recrée un mini théâtre avec des poules qui
pour
sont
sauver sa ferme.
Pour sauver sa ferme, avec les poules qui sont spectatrices, et il se dit je vais faire des vidéos, je vais les mettre sur internet, comme ça ça va créer le buzz, on va savoir qu'on existe, et il obtient des vues et de plus en plus de vues, et c'est la solution pour dire on existe, en tout cas, ne nous oubliez pas.
Et l'idée est belle, parce qu'on se pose toujours la question, quand on achète quelque chose, on imagine d'où ça vient, et se dire que là, on peut avoir, on peut visualiser la tête de l'éleveur. Et d'ailleurs, la publicité s'est déjà emparée de ça, d'une certaine façon, quand on voit sur des emballages, des
la
photos
photo, hein.
De quelqu'un pour dire c'est authentique, c'est réaliste, c'est que ça veut bien dire que ça rassure.
Ils sont tous des comédiens qui sont bien castés. Tous.
En tout cas, là, on est dans une ferme qui fait rêver, c'est-à-dire que lui, en effet, ses poules sont élevées
au grand air. Elles sont élevées en plein air.
Voilà. Donc c'est vraiment du bio, hein. C'est l'œuf numéro zéro.
Ouais,
pour quand on cherche les références de l'œuf à consommer ou pas, elles sont vraiment élevées en plein air, elles sont limite câlinées, cajolées, et puis tous les 16 mois, parce qu'une poule peut vivre plusieurs années, mais elle baisse de rentabilité, de rythme, tous les 16 mois, elles doivent partir lors d'un long voyage, et là
c'est très triste.
C'est le petit garçon de la famille qui n'est pas encore au courant de ce qui se passe. C'est très triste. Ça ne cache pas la réalité justement de ces poules qui vont entre guillemets être abattues, mais de l'autre côté, ça les laisse vivre au moins. Elles voient le soleil, elles voient le plein air, elles sont heureuses le temps de leur vie. C'est important aussi et c'est touchant de voir ça dans ce film. Le théâtre, justement, on va y retourner avec Léa Drucker en 1987. En allant au théâtre, vous écoutiez. If I was your girlfriend, would you let me dress you?
I mean, help me pick out your clothes before we go out. Et cette chanson de Prince, le titre,
If I was your girlfriend.
Et ça tombe bien parce que c'est ce qui vous a motivé, Léa Drucker, à intégrer le club de théâtre. Généralement, c'est les hommes qui nous racontent ici qu'ils ont fait du théâtre pour suivre une fille.
Pourquoi pas une fille?
Et bien sûr, mais je trouve ça génial.
Oui, donc, moi, j'étais amoureuse d'un garçon, mais je raconte ça souvent, mais c'est vrai, j'étais amoureuse d'un garçon au lycée Molière, enfin amoureuse, c'était platonique, complètement platonique, je n'ai jamais adressé de mots.
Platonique, parce que justement, il s'était rien passé, sinon...
J'étais effrayée de tout, mais en même temps, je rêvais beaucoup, et donc ce garçon s'inscrit au club théâtre, il s'appelait Guillaume, je me dis, bon, je vais m'inscrire au club théâtre, j'en avais...
C'est vraiment... Guillaume de Tonquédec, déjà.
Mais donc, je me suis inscrite au club théâtre, mais je ne m'intéressais pas du tout au théâtre, ça ne m'intéressait pas du tout, j'aimais que le cinéma, et je suis tombée... sur un professeur admirable qui s'appelait Monsieur Steinmetz, qui était aussi professeur, enfin qui a déclenché pas mal de vocations, et c'est là que j'ai commencé à faire du théâtre et à me prendre de passion pour le théâtre.
Et vous êtes rendu compte qu'il y avait une discipline où on misait un peu sur vous, on voyait en vous une bonne élève.
Disons que c'est la première personne adulte, ouais. Quelqu'un qui m'impressionnait, pour qui j'avais beaucoup de respect, et qui m'a dit, t'as peut-être quelque chose à faire là-dedans.
Ouais.
Il a pris ça au sérieux et ça m'a mis sur la piste.
1989, vous écoutiez De La Soul. En écoutant cette musique, vous avez quelles images?
Alors c'est drôle parce que je suis en train de lire sur votre table Palace !,
ouais.
Et j'ai encore mon ticket pour le concert de La Soul au Palace.
Au Palace.
À cette époque-là.
Qui était il faut poser, qui était une boîte de nuit, un restaurant.
Et une salle de concert.
Et pas un théâtre comme aujourd'hui.
Ah oui, non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Il faut le préciser.
Non, parce qu'il y a des concerts au Palace, mais en tant que théâtre et pas en tant que.
Oui, c'est plus la même époque. Mais c'était une époque où j'ai commencé à découvrir un peu Paris la nuit et à prendre un peu ma liberté et aller vers des endroits, des choses qui m'intéressaient. Et notamment, j'aimais le rap. Et donc, je me suis retrouvée au concert de La Soul, et qui était un moment dont je m'en souviendrai toute ma vie. Parce
qui était l'endroit où il fallait être en plus.
Mais on avait, c'était pas un truc à l'époque, on se disait, je suis branché, je vais au concert de La Soul. C'est qu'on adorait cette musique, on vibrait pour ça. Et à l'époque, les choses étaient moins cloisonnées que maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les trucs VIP et tout ça. Ça brassait des gens très différents. Et c'était très joyeux.
Me, Myself and I. Et
c'était
aussi
mieux avant. Non, je plaisante.
Une sorte de dédoublement, de double vie à cette époque-là, Léa Drucker, puisque vous intégrez la fac à Nanterre.
Et d'un pied, quoi.
Ouais.
D'un bout de pied.
Un pied là, et en cachette.
Et en cachette, je travaillais dans une pizzeria qui était en bas de chez moi, et pour gagner un peu d'argent et pour payer mes cours de théâtre.
À Montmartre.
Qui était avenue Junot, au cours Vera Greg.
Ouais. Et ça, vous l'aviez pas dit.
C'est-à-dire que je sentais que mon père était un peu. Enfin, je sentais mon père voulait que je fasse des études, il était inquiet, et ça je le comprends très bien, je pense que je le serais avec ma fille aussi. Mmh. Et donc, je me suis inscrite en cachette dans ces cours, parce que je pouvais pas sérieusement dire je vais plus à la fac et je fais des cours de théâtre, j'assumais pas en tout cas. Je regardais des acteurs travailler, c'était dense, c'était impressionnant, c'était intense, c'était un travail très émotionnel, c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Un peu comme Raymond dans le film, ouais. D'ailleurs, où moi j'étais une jeune fille plutôt pas introvertie mais pudique, et tout d'un coup ça m'a ouvert des cases, quoi.
Et comment avoir une double vie comme ça, on cache longtemps?
Non, pas longtemps. J'ai dit que j'allais à la fac.
Alors maman,
j'ai pas. Non, mais disons que j'arrive.
Maman était au courant parce que vous étiez complice avec.
Ma mère, elle était un peu sur une autre planète. Ma mère, tout ce qui était artistique, elle trouvait ça génial. Donc elle me posait pas trop de questions. On me posait pas trop
d'accord.
de questions. Je vivais seule déjà, enfin j'habitais plus à la maison, donc je me suis débrouillée comme ça pendant un temps, mais il fallait montrer qu'on était capable d'être acteur, c'est-à-dire que tant que j'étais pas engagée, tant que j'avais pas un boulot, tant que j'étais pas engagée dans un théâtre ou dans un film, j'étais pas crédible.
Alors c'est quoi le repère d'ailleurs?
C'est souvent comme ça.
C'est d'avoir un premier contrat, un premier engagement, ou c'est de jouer sur une scène reconnue comme une scène professionnelle, ou c'est...
Non, le repère, ça a été de rentrer à l'école de la Rue Blanche, de réussir d'accord. le concours, qui était un concours quand même difficile à passer, et je l'ai réussi. J'ai pu commencer à
vous
dire.
Vous avez eu l'oreille de vos parents à ce moment-là.
En tout cas, mon père a commencé à prendre ça au sérieux, à comprendre que c'était sérieux.
En 2006, vous écoutiez.
Rains dear, but true dear.
Ah, l'alcool.
Toujours cette période rap.
C'est Sinatra, c'est. Le vieux Sinatra.
Alors pourquoi le premier Sinatra arrive en
2006? C'est
Cole Porter
d'ailleurs. Alors pourquoi? Parce que je me souviens très bien, j'étais sur le film de Zabou Breitman qui m'avait donné un rôle magnifique dans L'homme de sa vie, un des premiers rôles importants que j'ai eu au cinéma, et que c'était un travail difficile et que j'ai l'habitude de me brancher sur de la musique souvent pour pouvoir vivre des choses sur le tournage. C'est mon travail personnel. Hein,
ouais.
Donc c'était Sinatra qui m'inspirait à l'époque. Je ne sais pas pourquoi, c'est complètement émotionnel ça aussi.
Donc vous avez une BO qui n'est pas la BO du film ou de la pièce de théâtre, mais qui est de votre préparation mentale, psychologique à un rôle.
C'est ce qui me connecte à quelque chose d'organique, de sensitif, sur mes émotions. Mais ça change avec le temps.
Oui, avec le rôle, j'imagine.
Et
aussi.
Avec le rôle, bien sûr,
chaque
avec ce que ça
une...
raconte.
D'accord.
Oui, la bande-son diffère. Juste avant le film que vous venez d'évoquer, L'homme de sa vie, vous étiez sur les planches aux côtés d'Isabelle Carré.
C'est après.
C'était après.
Oui.
Avec toujours un texte mis en scène par Zabou Breitman.
Un texte écrit par Emmanuel Marie et mis en scène par Zabou Breitman.
Ça s'appelait Blanc.
Blanc.
Ouais.
Ouais, c'était une pièce que j'ai adorée. D'abord, j'ai adoré être en duo avec Isabelle Carré. Ouais. Et c'était un très beau texte de cette jeune femme qui s'appelait Emmanuel Marie. Qui a disparu peu de temps après nos représentations, et c'était une femme, un grand auteur, et en même temps une femme auquel on était très attachés. Donc ça a été un moment aussi important.
en 2018, l'année dernière. Kate Bush, là aussi, décalage mais légitime, c'est exactement l'exercice que l'on demande à nos invités entre ce titre qui date des années 80 et l'année dernière. Pourquoi Kate Bush vous fait penser à 2018 ?
2018, c'est le... Bah c'est, en fait, Kate Bush, elle couvre plusieurs années, hein, parce que je suis une fan de Kate Bush, donc c'est... Mais c'est vrai que c'est...
Wuthering High, qui était les hauts de Hurlevent.
Bah, c'est lyrique, ouais. C'est très, sa voix, elle est très puissante, elle est romantique en même temps, et il y a une orchestration qui m'emmène assez loin, et c'est quelque chose que j'ai écouté pendant le tournage de Jusqu'à la Garde, parce que c'était extrême, comme ce qu'on nous demandait, sur ce que l'histoire nous demandait, et en même temps humain.
Et pardon, vous dites que pour votre travail, pour vous mettre en condition, vous écoutez des musiques, il faut donc faire un travail de recherche de ces musiques et de savoir dans quelles conditions vous voulez être. Comment pouvez-vous ?
Ça vient tout seul, en fait. Je pense que tout le monde a ça. Je pense que vous avez ça aussi. C'est tout d'un coup, on a envie d'écouter une musique par rapport à un moment qu'on vit, un moment précis qu'on vit dans sa journée ou dans un moment précis. Je trouve que la musique est très connectée à notre vie. Ou alors on a besoin de ne pas écouter de musique du tout, ça arrive aussi.
Mais là, c'est plus que connecté à une vie, c'est connecté à vos émotions et connecté. Ouais, c'est ça, un état dans lequel vous
voulez
vous
mettre pour un rôle. Ça met dans un état. Ouais. Mais il y a des gens qui s'en servent pour écrire et puis je me demande si la musique, je pense que c'est ce qu'il y a de plus fort et de plus puissant d'ailleurs pour se connecter à ses émotions.
Et cette rencontre avec Denis Ménochet, excellent film jusqu'à
de Xavier Legrand, ouais, qui vous vaut le César de la meilleure actrice pour votre rôle, avec ce discours aussi qui a marqué les esprits quand vous êtes allé récupérer votre récompense. Ce n'est pas tant de la comédienne dont vous avez parlé, mais des femmes.
Oui, c'est curieux parce que évidemment je ne savais pas comment cette soirée allait se passer, on ne peut jamais savoir. Mais je me suis dit, si jamais je devais monter sur scène, qu'est-ce que j'ai envie de dire au-delà des remerciements qui sont très important, et comment j'ai envie de remercier les gens grâce à qui je serai là. Mais surtout, j'étais bien consciente que cette histoire, elle était connectée à quelque chose qui se passe actuellement, et quelque chose qui est terrible, et qui est une des raisons pour lesquelles on a voulu faire ce film. Je me dis, comment parler de ça en quelques mots, en quelques minutes? Alors je me suis vraiment pris la tête, hein. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie de dire et comment j'ai envie de le dire. Et puis évidemment, je suis arrivée sur scène, j'ai oublié la moitié de tout ce que je voulais dire, mais je crois que le sens de ce que je voulais dire profondément est passé. Je pense que c'est important pour moi de rappeler que nous, on faisait de la fiction, qui était essentielle et importante, mais qu'en même temps, cette fiction était connectée à ce qui se passe vraiment dans la vie des femmes, et que je ne pouvais pas oublier que ce prix y récompensait aussi un sujet.
Ouais.
Et qui est un sujet douloureux et qui fait partie de nos vies, malheureusement.
Et vous étiez submergé.
Vous étiez submergé
par l'émotion aussi en le faisant.
Bien sûr.
Vous avez dit, je pense à toutes celles qui sont parties, celles qui veulent partir, celles qui ne partiront pas, celles qui auraient dû partir, je pense à elles. Et elles sont toutes englobées, on est toutes englobées, finalement.
C'est vrai que c'est un moment où...
Il y a des moments où t'as envie de rester, sûrement.
Oui.
Quand on est acteur, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut faire, on peut être au service d'une histoire qui va permettre de rappeler des choses, ou des choses qu'on n'a pas envie de voir, ou des choses qui ne sont pas assez visibles. Et c'est vrai que le comédien, il est là pour raconter ses histoires, mais aussi pour vivre. Là, j'ai eu l'occasion, en tout cas, de pouvoir
porter des valeurs,
cette tribune, de dire quelque chose qui m'était très important, et ne pas être que juste une comédienne qui reçoit un prix, même si c'était très important pour moi personnellement. Mais je pense que ça avait aussi une dimension universelle, c'est un peu pompeux, mais vous voyez ce que je veux dire, humaine, qui était essentielle aussi.
Quand vous dites que recevoir un prix, c'était pour vous important, c'est pas le cas de toutes les actrices, tous les acteurs.
Il y en a qui mentent.
C'est quand même très, très, très heureux, très joyeux, très réconfortant. Ça donne de l'élan pour la suite. C'est un témoignage quand même d'affection. Ça a été moi, ça aurait pu être les autres aussi, parce qu'elles étaient les actrices qui étaient avec moi étaient merveilleuses aussi. Qu'on est le meilleur, c'est juste que tout d'un coup il y a une attention qui est portée au film, à vous, à votre travail, et peut-être aussi à un moment de vie, je sais pas, une expérience très... peut-être.
César de la meilleure actrice, quand même. Ça calme.
Ça fait du bien.
Roxane, le film sort aujourd'hui avec Léa Drucker, Guillaume de Tonquédec, Lionel Abelansky, Kate Duchesne, Liliane Rovert, Michel Jonas, Jean-Yves Lafesse, entre autres, et Roxane, la poule en question. On a demandé aujourd'hui à Kevin André de venir à ce micro. Vous avez fondé, alors je sais pas comment je dois prononcer, Kawa. Il y a deux A à la fin. Ouais.
Un café.
Donc vous avez créé Kawa et le paradoxe c'est que vous êtes ancien professeur à l'ESSEC, professeur des écoles et professeur à l'ESSEC, là on passe vraiment, c'est le grand écart en termes de cursus, et puis l'ESSEC c'est quand même pas l'école qui incarne la mobilisation citoyenne. On a plutôt l'impression que ce sont des killers, des cost killers qui sortent de là, des futurs patrons de multinationales. Et pourtant, vous, ce qui vous intéresse, c'est cette citoyenneté.
Le monde change là-dessus. Enfin, moi, quand j'ai fait mes études à l'époque, c'est vrai que on avait le choix, un grand choix entre le marketing, la finance. Voilà. Aujourd'hui, il y a des chaires, il y a une chaire entrepreneuriat social, il y a une vraie envie de sens, et il y a une envie de mettre au service de l'intérêt général, de l'utilité sociale, des mécanismes.
Dans les cours de l'ESSEC.
Ouais, il y a une chaire, il y a des cours. Moi, j'ai enseigné des cours autour de l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, dans le film, la coopérative, c'est une structure historique de l'économie sociale et solidaire. Et ce que les étudiants disent, c'est intéressant toujours, c'est mais en fait, comment ça se fait qu'on nous en parle pour la première fois 3 ou 4 ans après son bac. Donc je pense qu'il y avait aussi un sujet de faire entrer dans la culture, y compris dans des univers commerciaux, cette existence. Hein, ça existe depuis les cathédrales, les sociétés de secours mutuelles. Depuis tout ce temps-là, en fait, les gens s'entraident. Donc c'est intéressant d'ailleurs par rapport au sujet du film.
Mais ça veut dire que ce soit le sujet du film ou la manière dont l'élevage, l'éducation à l'ESSEC.
Ça peut être un peu ça.
On n'est pas loin. Hein.
Se
transforme, l'humain reprend un tout petit peu des lettres de noblesse et la surconsommation, la surproduction, la surefficacité, on va dire quoi, est moins urgente. Est-ce qu'on peut conjuguer les deux? Non, mais allons-y. Est-ce qu'on peut conjuguer les deux, c'est-à-dire être bio, être humain, être dans la citoyenneté, dans le partage, dans le respect et être rentable?
Moi, j'ai deux convictions. D'abord, c'est qu'on est des êtres humains. Comme on est des êtres humains, on a besoin de sens. Et il y a un moment quand on manque de sens, et ça je le vois tous les âges, on va dire, que ce soit pendant les études, que ce soit la crise de la quarantaine, que ce soit, etc. Oui. Il y a un moment où on a besoin de sens. Parfois ça arrive parce qu'on a des moments douloureux dans sa vie, qu'on perd quelqu'un, et là on se réveille, on se dit mais finalement c'est ça le plus important. Après j'ai une deuxième conviction, c'est qu'on peut combiner intérêt général, utilité sociale et mécanismes entrepreneuriaux. Kawa, on a créé, c'est une entreprise, mais c'est une entreprise au sens de la loi de 2014 qui est de l'économie sociale et solidaire. Donc on a une finalité sociale, on a une lucrativité limitée, mais en même temps on a des actionnaires et on cherche un modèle économique autour de cette idée de créer du lien à l'échelle locale et de faire en sorte que les gens se rassemblent autour de causes communes. Donc je crois que c'est possible. Après, il faut pas se tromper, je pense qu'il y a un arbitrage à faire entre une grande lucrativité et l'utilité sociale. C'est-à-dire que par exemple, chez Kawa, on s'engage à ce qu'il n'y ait pas de différence au-delà d'un écart de 10 entre le moins bien payé
le plus grand salaire.
Ouais. Moi, je suis pas payé pour le moment, donc tout va bien parce que c'est une start-up, donc on fait que dépenser de l'argent et on en gagne assez peu. Mais ça va venir.
Le jour où,
voilà, ce qui est très important, c'est que statutairement, c'est pour ça que je crois pas mal aux structures de l'économie sociale, c'est qu'il y a des statuts, il y a aussi une gouvernance démocratique. Les coopératives, ça marche comme ça. Hein. Mmh. Y a une organisation qui fait que le jour où on gagne beaucoup d'argent, on ne va pas oublier qu'au démarrage, on s'est lancé pour une cause sociale.
Alors, les agriculteurs sont malheureusement extrêmement touchés par la crise. Certains, faut pas l'oublier, ont entre 3 et 400 euros pour s'en sortir par mois, ce qui est mécaniquement extrêmement difficile. D'autres mettent fin à leur jour parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et on rêve d'un, oui, on rêve d'un monde, d'un monde meilleur, en se disant, mais si on était plus proche d'eux, si on, si les intermédiaires ne venaient pas se rincer, que ce soit les producteurs de lait, les producteurs de poules ou les maraîchers aussi, ou les fruits et légumes, peut-être que s'il y avait moins d'intermédiaires. Eh ben, ils gagneraient plus. Nous, on saurait d'où viennent les produits et on aurait plus confiance dans ce qu'on consomme aussi. C'est la tendance, à votre avis?
C'est les circuits courts, hein, dont on parle. Ouais. C'est en fait
les produits locaux et
réduire
le film. Donc je vais pas dire à la fin, mais il y a quand même cette question.
Ça démange, hein, de raconter la
fin.
Ouais,
ça démange.
Ouais, je
sais,
moi aussi, c'est clair, parce que
c'est intéressant, mais c'est effectivement comment on peut, et là encore, utiliser des outils de marketing, utilisons des gros mots, hein, des ce que les grandes.
C'est-à-dire le buzz internet, c'est ça le marketing pour vous?
Alors, sur cette affaire du buzz ou du buzz, ou du YouTube, oui, les réseaux sociaux, le numérique est indispensable. Mais ce qui est très intéressant dans le numérique, c'est un peu pour ça qu'on a créé Kawa, c'est que on peut pas mobiliser en restant dans le numérique. Il faut revenir à la vie réelle. Ça, je pense que de ce point de vue-là, les Gilets jaunes, par exemple, c'est très intéressant. C'est-à-dire, c'est évidemment un mouvement qui a bénéficié, qui s'est appuyé sur les réseaux sociaux, mais pour aboutir à quoi? À des gens qui se retrouvent sur les ronds-points et qui partagent aussi à un moment, dans un contexte dans lequel il y a une solitude très importante. D'ailleurs, on s'appelle Kawa. Pourquoi? Parce qu'on croit beaucoup au rôle des cafés. Il y avait 500 000 cafés au début du XXe siècle. Il y en a 35 000 en France. Oui. Le café joue un rôle central dans le film. C'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu de la mobilisation.
C'est le lieu de rendez-vous. Sauf que les réseaux sociaux ne sont que des moyens de communication. C'est le prospectus moderne. C'est le courrier. On a peut-être moins maintenant dans les boîtes aux lettres, mais on a des spams qui nous tombent sur les ordinateurs. Faut pas lui donner plus d'importance que cela, ce réseau social.
C'est une première étape. Si on veut vraiment mobiliser, si on veut faire un travail de fond, ça prend du temps. Hein. Je prends un autre exemple, l'affaire du siècle. Vous avez probablement peut-être suivi, hein, plus de 2 millions.
On n'a pas suivi, on a signé, monsieur.
Merci, moi aussi. Plus de 2 millions de personnes ont signé cette pétition. D'ailleurs, c'est un bon assemblage entre des youtubeurs, donc la nouvelle génération, quelque part, la nouvelle manière de mobiliser, puis des organisations, des ONG qui existent depuis un certain temps. Mais la réalité de l'affaire du siècle, c'est que si on veut faire vraiment changer les choses, il faut s'appuyer là-dessus pour faire ce qui est en train de se passer, la conférence citoyenne, un travail de lobbying citoyen, d'une certaine façon.
Recréer une communauté.
Exactement, créer une communauté, mais c'est aussi donner les outils pour impacter le politique. D'ailleurs, à ce propos, je me permets de parler d'une initiative qu'on lance qui s'appelle Action Commune. L'idée, c'est de permettre aux citoyens de rejoindre ou créer des listes citoyennes à l'occasion des municipales. Je signale juste que dans un sondage récent, un maire sur deux compte ne pas se représenter. Ouais. Donc il ne faut pas oublier aussi que si on veut faire changer les choses, y compris pour les agriculteurs à l'échelle locale, il faut aussi impacter nos instances et nos démocratiques. Donc l'abstention, la mobilisation, aller dans la rue, super, créer des boîtes, c'est bien, mais il y a quand même un truc qui s'appelle la démocratie qui conditionne pas mal de choses.
Mais quel est l'espoir qu'on peut avoir au niveau local ou même national quand la majeure partie des décisions, notamment en ce qui concerne l'élevage ou l'agriculture, sont prises au niveau européen?
Alors, l'innovation, c'est à partir de la contrainte. C'est faire d'une contrainte... Donc il y a plein de choses à imaginer à l'échelle locale, dans les mécanismes coopératifs. C'est exactement le sujet du film. Encore une fois, j'ai pas envie de spoiler la fin, même si j'en ai très envie. Mais c'est comment, à sa propre échelle, on va pas changer le monde soi-même, mais comment, à sa propre échelle, on peut réinventer et, en l'occurrence, sauver quelques emplois, quelques exploitations. Et puis après, voilà, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières.
Sans spoiler la fin, encore une fois, elle vous paraît possible?
Moi, je crois qu'elle me paraît possible.
Que la traçabilité,
va jusqu'au bout. Un petit étudiant de qui aurait donné un petit coup de main sur le logo, le marketing ou le chat graphique.
Mais c'est juste
pour dire qu'on peut être utile aussi dans ces écoles de commerce à partir du moment où c'est orienté. Je crois que le plus important, c'est la finalité. C'est pourquoi on fait les choses. Lui, il fait pas ça pour s'enrichir. Il fait ça parce qu'il y croit.
Ce qui est encourageant, c'est de se dire aussi, vous parlez de la vie politique et de l'importance des maires. Il y a aussi le pouvoir de la consommation, soit de ralentir la surconsommation d'un côté, ce qui devient essentiel, sinon on va péter un câble, mais surtout de redonner ce poids-là, la consommation, vous dites, de produits locaux, de immédiat, de savoir où on achète, à qui on achète et où va l'argent. Et ces circuits courts, ce pouvoir de consommation peut à la fois aider des éleveurs à vendre leurs poules, leurs œufs bio élevés en plein air, et à la fois non pas boycotter, mais pas loin, l'huile de palme, toutes les merdes qu'on essaye de nous refiler aussi, en disant bah si on les achète plus, ils seront pas obligés d'aller déforester à l'autre bout du monde, brûler des hectares et des hectares de forêt pour planter et récolter de l'huile de palme. Le vrai pouvoir, il passe par là aussi.
Le pouvoir des consommateurs. Et in fine, oui, ouais, tout à fait. In fine, une entreprise, elle sert ses clients. Donc si les clients demandent autre chose, ils le feront, ils se poseront pas tellement de questions. Hein.
Ça s'appelle Kawa, qu'on retrouve où d'ailleurs, Kawa, si on veut
sur Internet et aussi dans 500 à 600 lieux un peu partout en France, principalement des cafés. On peut débattre, on peut se rencontrer, on peut échanger. On peut aussi préparer les élections municipales, pourquoi pas créer sa liste citoyenne.
Développer un lien social et participer à cette vie dans les territoires. Merci beaucoup.
Merci à vous.
D'être venu, Kevin André. Tanguy, bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui, bonjour à tous.
Vous voulez donc que je me tâte?
Oui.
C'est ce que sur papier.
S'il vous plaît.
Et je dois donc toujours lire, hein, j'avoue.
Oui, hein,
je dois lire tout ce que Tanguy Passion me demande de lire.
Absolument.
Donc je me tâte, Tanguy, pour ma prochaine destination de vacances cet été.
Alors, Nagui, je vous suggère Tchernobyl, en Ukraine.
Oui,
un endroit serein. La nature a repris ses droits. Il y a plus de droits.
Ce qui est rare à Tchernobyl.
C'est le côté je me tâte, quoi. Les doigts, etc. Bon, allez, je pense qu'on peut arrêter là. Je vais vous parler de Tchernobyl qui attire plein de touristes. C'est la folie en ce moment. C'est le bon plan vacances pour cet été, Nagui.
Très bien, on en parle après. La bande originale avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous.
Agnès Hurstel. Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Albert. Bonjour. Tanguy Passiereau. Et notre invité Léa Drucker.
Bravo.
Avec la musique, on est déjà dans l'ambiance
de Gaëtan Roussel.
Ouais. Génial.
Qu'il a fait pour le film.
Sur mesure.
Oui.
C'est clair. Ça se sent d'ailleurs. Ça se sent parce que il se promène au rythme de je sais pas, de la lumière, du jeu, du regard extrêmement tendre aussi de Guillaume Tonquédec, ce qui est fort d'ailleurs dans votre personnage aussi. Vous êtes l'épouse de cet agriculteur qui a ses poules et ses œufs bio, qui n'a plus les commandes de la coopérative. Donc il y a une fin annoncée, une mort. Annoncé. D'ailleurs, il y a aussi cette espèce d'épée de Damoclès. On a peur aussi qu'ils mettent fin à ces jours parce que c'est vraiment sans issue. Et puis votre regard change aussi. Même vous êtes dur au début comme une banquière. Et puis, de dire que toutes les banquières ont un regard dur. En tout cas, vous êtes dans les clous de votre
métier.
Quoi.
Je suis dans le réel, dans l'inquiétude, et ça rigole pas, quoi. Et puis c'est une femme, Anne-Marie, c'est une femme qui a du tempérament et voilà, et qui se sent menacée, enfin qui sent que sa famille est menacée, et qui essaie de réveiller son mari, lui dire mais qu'est-ce que arrête de rêver. Mais ça, on l'entend beaucoup, ça. Arrête de rêver. Donc c'est beau que cet agriculteur il s'autorise ce rêve. Mais en même temps, Raymond, il a aussi peur du ridicule quand même, parce que ce qu'il fait avec ses textes de théâtre, il le fait avec ses poules, il le fait pas avec sa famille ou avec ses le personnage de Lionel. Il ne s'autorise ça qu'avec les poules et avec cette femme qui est jouée par Kate Duchesne, l'anglaise, qui va être son prof de théâtre.
Coach,
son prof de théâtre.
Roxane est le nom de la poule qui est sur l'épaule de Guillaume Tonquédec sur l'affiche, me semble-t-il.
Oui. C'est ça. Mais Guillaume s'est beaucoup promené, même actuellement, toujours avec cette poule sur l'épaule. Il ne parle que d'elle en interview. Moi, je suis à côté, j'attends un petit compliment, un truc. Il y a rien qui sort de sa bouche.
Vous aimeriez être la poule de Guillaume? C'est quoi le message que vous voulez faire passer?
C'est des jalousies entre comédiennes.
C'est ça, ouais. Ça sort aujourd'hui au cinéma et on peut que vous encourager à voir ce film parce qu'il fait du bien aussi. C'est d'abord la nature est extrêmement bien filmée, la vie, les conditions des agriculteurs, en tout cas ceux qui sont pour le bio et qui sont pas forcément dans la surproductivité, l'efficacité, le rendement, l'argent.
Détriment de l'humain, détriment de la vie des gens et c'est tragique, c'est terrible. Mmh. Même si c'est une comédie, cette comédie, elle s'ancre dans quelque chose de c'est pas une comédie, oui, c'est oui, pas c'est qu'une fantaisie, quoi. Drame, c'est ancré dans quelque chose de réel, de ce qui se passe aujourd'hui dans la vie des agriculteurs et qui parfois peut aller jusqu'à la tragédie, mais bon, c'est pas. Non, le film est optimiste.
C'est une fin plus heureuse et vous pouvez y aller en famille parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants aussi.
C'est ça, surtout, je trouve que c'est un joli coup de projecteur sur un drame qui nous est totalement contemporain et dont on n'est pas forcément conscient.
Il est temps d'accueillir maintenant sur Inter Monsieur Tanguy Pastureau.
Où ça?
C'est lui là.
Ah, c'est ça.
Tanguy, le compte à rebours a commencé plus que 2 semaines et demie avant les vacances.
Oui, quel pied. Enfin, on va pouvoir glander en short à 2 grammes, à rien foutre, et tout savoir la vie de Benoît Hamon depuis le lendemain des élections européennes. Le seul souci, c'est quand on veut partir, parce que où aller? 90% des pays n'ont plus d'intérêt. C'est comme chez nous, à l'entrée de chaque ville, il y a un Ikea, un Jennifer, un Decathlon, et 250 ronds-points moches, accueillant les œuvres d'artistes ratés qui ont facturé une blinde juste parce qu'ils ont couché avec le maire. Avant, l'étranger, c'était exotique, on chopait la dingue. Maintenant, dans les Yvelines, il y a des moustiques tiques qui la propagent. Donc on peut rester dans le 7-8 et avoir la vie d'un gueux de Calcutta. Le tourisme ruine les écosystèmes en y introduisant l'espèce la plus nuisible de toutes, le touriste en short. Le reste de la faune, effarée par tant de laideur, fuit. En Thaïlande, les éléphantaux viennent s'empaler sur les défenses de leur mère au 30e quart de touriste allemand. Alors parfois, ça a du bon, le tourisme. Macron, vous lui faisiez visiter la France miniature, il voyait tout le pays d'un coup. Il n'avait pas besoin d'aller se frotter le kiki contre le dos du Pékin lors d'un bain de foule à Dijon ou Tourcoing. Mais avec la mondialisation, on vit tous pareil. Pourquoi bouger? Quand rendez-vous en terre inconnue déboule dans un village paumé entre 4 lianes, les pygmées sont en train de mater du streaming. Vous leur dites vous parler français, ils vous répondent bien sûr, tu crois quoi bébé? On est déjà sur la saison 12 du Bureau des Légendes. Ils sont obligés de planquer la zapette et l'enceinte Bluetooth du gosse avant l'arrivée de l'invité. Quand Marc Lavoine déboule avec juste un étui peigné et une dent de chauve-souris dans le téton, ils sont morts de rire. Non mais tous les endroits sont les mêmes aujourd'hui. À New York, il y a des crêperies. À Kuala Lumpur, pour y kiffe Kylie Jenner et les Kaira de la banlieue d'Oslo crachent comme les lamas du Pérou. La seule solution, si on veut se dépayser, est de choisir une destination insolite, un lieu où personne ne va, comme par exemple le salon du coiffeur qui a fait les dernières coupes de Hanouna. Le but, c'est de se différencier, de dire à un ami qui est parti à Dubaï ou Punta Cana, vieux t'es un beauf, je vous urine à l'arrêt ou à EasyJet, et de sortir alors le nom de sa destination insolite. Alep, Mogadiscio, Monaco si on est smicard, ou Tchernobyl. Oui, le tourisme explose à Tchernobyl, qui est décidément le lieu de toutes les explosions. Souvenez-vous, 1986, Daniel Morin fait alors sa 21e année de présence à France Inter, puisqu'il fut conçu dans le studio 104 par Laure Adler, Jacques Vendroux et 24 syndicalistes de la CGT Radio France.
Ensemble.
Ensemble. La centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, un riant pays, en tout cas pour qui n'a connu que les chansons de Stromae et la mine de Martine Aubry, explose. Aussitôt en France, les JT explique à la population, aussi affolée que si aujourd'hui on annonçait un bronzé 4 par Patrice Lecomte, que le nuage radioactif s'est arrêté pile à la frontière française. Tout le reste de l'Europe est irradié. Les vaches ont 7 pattes, les moutons 3 têtes, ce qui fait que les musulmans, lors de l'Aïd, déclarent purée, je suis à la limite du burn-out. Mais la France, non. RAS, on peut faire l'amour à des paysannes à gros seins dans les forêts vosgiennes. Ou, pour ceux qui ne vivent pas dans un film X, cueillir des girolles en toute quiétude. Là, on se dit quand même, les frontières, elles sont fortes. J'en place une pour Dupont-Aignan, my brother.
Mais alors, pourquoi 30 ans plus tard, il y a un engouement autour de Tchernobyl?
Eh bien Nagui, parce qu'une série sur la catastrophe est sortie et sur le net, c'est la mieux notée de l'histoire, devant Marc et Sophie. Tout le monde adore. Le nucléaire est à la mode. Si vous mettez sur Mythique et vous êtes technicien à Fessenheim, chargé de colmater les trous avec du papier bulle, votre liste de rencarts court jusqu'en 2060. Et donc les gens s'y précipitent. 40% de touristes de plus en un mois. Des gens qui n'en pouvaient plus de la demi-pension à l'hôtel des Trois Dauphins Priapic de Paros. Et veulent se faire des vacances à part. On peut donc visiter la centrale. Alors on a sa petite combi, son compteur Gégère et les touristes font des selfies. Mais le souci, c'est que la catastrophe de Tchernobyl a fait de 4000 à 110 000 morts selon les estimations. 4000 selon la préfecture de Paris, 110 000 selon Alexis Corbière. Donc là, les touristes font les cons sur un immense tombeau, parce que des ouvriers le jour J sont allés sur la centrale en t-shirt d'IM pour construire un sarcophage à la va-vite. Ils sont allés au casse-pipe. Alors en France, nous n'étions pas concernés, puisque notre grand mur invisible, le même que celui de Trump mais sans Mexicain accroché dessus, nous a protégé étrangers, ouf. Alors on appelle ça le dark tourism, tourisme macabre. C'est une mode, ça consiste à se rendre sur les lieux de grandes catastrophes comme Place de la Concorde à Paris ou en 2007 Miss Dominique a chanté pour fêter l'élection de Nicolas Sarkozy. Fukushima a ses touristes, ainsi que des villes de Chine touchées par des séismes, mais aussi des zones de guerre. Et là je dis stop, c'est un Français qui a inventé ça, Cocorico fait le coq en tortillant du croupion, Bernard-Henri Lévy. Le Kosovo, la Libye en chemise nickel à se recoiffer dans le reflet du métal d'une mine antipersonnelle, tandis que partout autour des types s'égorgent. Bah quand vous revenez, vous avez vécu un truc. Ariel Dombal qui déblatère dans votre salon, vous lui dites « Cocotte, je reviens du marché de Bagdad ». 90 millième marché le moins sympa selon Jean-Pierre Pernaut, parce que des kamikazes s'y font péter. À côté, toi, c'est rien. Le tourisme a donc envahi 100% des endroits, même Tchernobyl. À part le siège des Républicains où il n'y a plus personne, c'est là que dans 2 semaines et demie, je partirai en vacances.
Merci Tanguy Passereau. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Ce qui est bien avec la musique, c'est qu'on se rend compte qu'on passe par justement toutes les humeurs. Dans le film. Ces musiques font partie de la BO originale de Roxane, c'est signé Gaëtan Roussel. Celle-là s'appelle La scène aux œufs. J'aime bien.
Une scène de révolution.
Exactement.
De révolte.
Exactement. Oui, parce que quand vous énervez, vous dans le film, vous énervez. Hein.
Ah oui, oui,
on
oui.
On
ne
peut
oui,
pas non. dire que vous soyez super doué
au lancer.
Au viser.
Au lancer. Non, mais c'est...
Et aux chaussures, oui. Et aux chaussures.
Non, mais l'intention y est.
Parce que c'est aussi une histoire d'amour entre vous et Guillaume de Tonquédec, entre ce couple et cette famille. Lui, il a une passion cachée, parce que au début, il est dans son coin à lire Cyrano avec Roxane. Il l'appelait comme ça d'ailleurs, parce que les mots d'Edmond Rostand et Cyrano de Bergerac trouvaient une résonance en lui, mais il faisait ça dans son coin, tout
oui,
seul.
C'est quelqu'un qui n'ose pas utiliser les mots, il ne sait pas comment les utiliser. Voilà,
c'est un taiseux plutôt.
C'est un taiseux, c'est quelqu'un qui est pudique et qui ne sait pas vraiment bien s'exprimer, voilà.
Et c'est parce que il est acculé, parce que justement on lui suggère de créer le buzz, qu'il ose franchir le pas, aller sur internet sans trop savoir comment ça marche, si ça tourne, si le téléphone, le smartphone fonctionne.
Non mais il se lance, il est pris d'un rêve.
Voilà, mais il y va à fond justement par amour, malgré le regard de son fils qui clairement lui dit tu me fais honte, ce qu'il y a de pire pour un père, oui, d'entendre ça dans la bouche de son fils. Et finalement, il va réussir à rallier du monde autour de lui. Donc, c'est une très très belle histoire.
Oui, oui, parce que finalement, il attrape les autres dans son rêve. On finit par se rendre compte que c'est quelque part c'est lui qui a raison, même si c'est fou, et que il y a une véritable injustice qui se passe. Et même et d'ailleurs, moi, le personnage de d'Anne-Marie, à un moment donné, est en effet révolté.
Votre personnage.
Parce qu'on fait à son Raymond, et elle va se battre pour lui. Alors, il y a de là, parce que c'est aussi une histoire d'amour.
Oui, et puis parce que c'est aussi les grands rêveurs qui font avancer les choses, qui rallient du monde autour d'eux.
Oui, oui, et puis qui sont finalement insoumis. Le rêve permet de ne pas se soumettre toujours à ce qu'on veut nous imposer et ce qui rend les gens malheureux. Mais est-ce que c'est une utopie? Enfin, je sais pas.
En tout cas, il ne voit pas de fatalité dans la situation telle qu'elle lui est présentée. Il cherche toujours une solution, quitte à avoir à dos les autres éleveurs.
Oui, mais c'est...
Ah, c'est vrai, oui. Il peut avoir tous ses amis contre lui. Entre
mais oui, mais c'est un homme très courageux, en fait. Et c'est comme ça qu'il va, voilà, qu'il essaye de résister à ce qu'on essaye de lui imposer.
Ça peut paraître fou pour ceux qui n'ont pas vu le film de nous entendre comme ça parler d'un agriculteur qui fait un théâtre avec ses poules, mais c'est quand même le cas. Il réunit ses poules dans la basse-cour, il leur dit des textes et ça fait du bien. Et on a déjà souvent entendu que les arts, que ce soit la poésie,
la musique pour les
ou la musique exactement, faisait du bien aux animaux.
Bah, tout simplement, mais pas qu'aux animaux.
Ouais,
la vie
normale. Ouais. C'est ce que j'allais dire. La vie normale fait du bien à tout être vivant.
Mais c'est ça, c'est-à-dire que ça permet de nous extraire d'une réalité. On a tendance tout le temps à vivre dans, et il faut redescendre, il faut rester sur terre, reste sur terre. On l'entend
j'entends ça tout le temps. Et pourquoi ne pas s'octroyer de temps en temps cette fantaisie, la poésie, le rêve, l'imaginaire, de suivre ce qui se passe dans notre imaginaire, et pourquoi est-ce qu'on doit rester sur Terre?
Oui, et finalement, c'est le pouvoir des mots.
Même
c'est...
si cette Terre lui est essentielle, cette Terre lui est vitale. Ouais. Mais il a besoin de la raconter autrement, ou de se la raconter autrement. Et c'est magnifiquement interprété, d'ailleurs, par Guillaume de Tonquédec.
Puis, c'est bien réalisé, c'est bien joué, Lionel Abelanski. Vous et Guillaume, vous tenez bien la boutique. Je recite Lionel Abelanski volontairement, ouais,
parce qu'il est génial.
Et puis, il a un rôle clé. Son personnage est vraiment, vous le verrez en voyant le film, il y a un moment, il y a une bascule qui est très importante. Et elle vient de lui parce que il est naturel.
Voilà. Oui, ouais, c'est vrai. Et puis il y a cette anglaise ouais. C'est une anglaise qui lui réapprend les mots.
C'est elle qui lui donne les clés, oui. En fait, en le prenant sous son aile et aussi en lui transmettant un monologue qui va le marquer.
Exactement.
C'est bien, ma poule. C'est parti. Merci, Daniel Morin. Vous allez bien faire une fois. Écoute.
Nathalie Arthaud, la porte-parole de Lutte Ouvrière, l'a dit haut et fort, l'union de la gauche, ce sera sans nous. Alors, bien sûr, d'aucuns diront... Ah, la traîtresse! En voilà un mauvais coup pour les hommes et les femmes de bonne volonté qui semblaient prêts à tous se tenir la main pour que, dans un grand élan de solidarité prolétarienne, la vague de cynisme libéral macronienne soit enfin brisée. Ne sois pas si cruelle, Nathalie, reviens! Reviens sur ta décision et rejoins-nous. Oui, rejoins l'union de la gauche avec derrière toi le cortège massif de tous tes soldats. Soldats qui, au bout de leur lance, ont pour panache la défense des droits des travailleurs, ayant pour objectif de pourfendre la carapace d'un libéralisme éventreur d'espoir. Oui? Mais n'oublions pas que Lutte Ouvrière, aux dernières élections, c'est 0,8%. C'est presque trois fois moins que le parti animaliste. Et quand on sait ça, le ton change. Ah, la comique! Oh, voilà une bonne blague! Nous menacer de ne pas joindre l'union de la gauche. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, Nathalie Arthaud? Garde-les, tes 180 000 électeurs. Garde-les et emmène-les avec toi au cimetière des espoirs pour enterrer dans une indifférence bolchevique 180 000 promesses de dire non à Macron. C'est peu, peut-être, mais... Mais c'est vrai que c'est peu. L'espoir d'une gauche unie, c'est vraiment très très loin d'être gagné. J'ai bien peur que l'espérance de vie d'une telle création ne soit équivalente à celle du cadeau de notre président à Donald Trump. Souvenez-vous, en avril 2018, Donald Trump et Emmanuel Macron plantent ensemble dans les jardins de la Maison Blanche un jeune chêne, symbole de l'amitié entre les deux peuples. Aujourd'hui, le petit chêne est mort. En même temps, qui peut lui en vouloir de ne pas avoir voulu résister, ce petit chêne? Être un jeune arbre dans les jardins de la Maison Blanche, si c'est pour que les clébards du grand rouquin viennent te pisser dessus chaque matin, avec en arrière-plan le gros facho en peignoir qui ricane en disant « Tiens, prends ça, l'amitié franco-américaine !» C'est vrai que parfois, l'amitié et la vie ne vaut pas le coup. À demain.
Merci, Daniel Morin.
France Inter, la bande originale, avec Nagui.
Il était en quarantaine, c'est ça, l'arbre?
Ouais, comme tous les produits vivants.
Qui viennent de l'étranger, c'est pour ça. Qu'il a mal vécu cette histoire. On parle de Roxane qui sort aujourd'hui au cinéma avec Léa Drucker, notre invité, Guillaume de Tonquédec, Lionel Abelanski, Kate Duchesne, Liliane Rovert, Michel Jonas, Jean-Yves Lafesse, entre autres, et puis toutes ces poules que l'on ne peut pas citer, qui pourtant sont aussi importantes que Roxane dans le film. Mais qui est un film vrai, c'est très poétique, toutes les générations évidemment peuvent le voir. C'est très bien réalisé aussi, ça se voit pas que c'est un premier film quelque part, mais il faut que ça soit pris comme un compliment. Les cadres, le rythme, le montage, tout est bien.
Oui, puis l'univers, la région, enfin là où on a tourné, c'est une région que Mélanie Offred connaît très bien. Donc elle a tout filmé, elle a filmé et ses personnages et cette région avec grand soin, parce que c'est un univers qui la touche, qui raconte beaucoup de choses aussi sur elle et qu'elle avait envie de partager avec les spectateurs, mais aussi avec nous, parce que nous quand on est arrivé, on était des citadins, tout d'un coup découvrant une région qu'on ne connaît pas, entourés amicalement par des agriculteurs qui nous ont raconté leur métier, qui nous ont suivi pendant ce tournage, surtout Guillaume qui a fait une immersion avant le tournage pour pouvoir jouer cet agriculteur au plus près de ce qu'il est, de ce personnage de Raymond.
La moustache aide beaucoup.
Mais ça lui va bien. Mais il a fait un travail.
C'est pas n'importe quoi non plus. Elle est chelou cette moustache.
Il y a un petit côté Beauvais qui lui va bien.
Ça lui va très bien. Ouais. Ça lui va très bien. Puis d'accord. Ça le change. Il fait un personnage qu'on l'a pas vu faire encore. Ouais, ça, c'est très réjouissant.
Parlons de vos projets, Léa Drucker. Le 14 août, vous serez à l'affiche de Je promets d'être sage, oui, avec Pio Marmaille.
Un film de Ronan Lepage, un premier film aussi, avec Pio Marmaille, qui se passe dans l'univers du musée. On a tout, c'est les personnages, on joue des gardiens de musée.
L'idée de partir sur des premiers films, des premiers projets, c'est aussi d'aider de jeunes réalisateurs à avoir la chance d'avoir une actrice qui a reçu un César, et j'imagine que le côté bankable compte.
Alors je l'ai tourné avant, hein.
Ah bon, d'accord. Bah, oui. Encore,
mais ça n'a rien changé.
Une actrice qui allait avoir un César.
C'est ça.
Non, mais voilà, le réalisateur m'a, voilà, il m'a choisi pour pas, c'est pas par rapport au César.
Non, mais vous aussi, vous choisissez le réalisateur. Ah, vous, oui, choisissez Mélanie, vous choisissez Ronan. Vous les aidez en les choisissant aussi, en acceptant leur projet.
Oui, alors honnêtement, je suis pas consciemment, je me dis pas tiens, je vais faire que des premiers films. C'est pas tellement ça, c'est qu'ils viennent vers moi, ces films là et j'y suis sensible. C'est des histoires qui me racontent quelque chose, et en fait la première chose qui me donne envie de rencontrer quelqu'un, c'est ce qu'il raconte, tout simplement.
Mais sans savoir comment il va le filmer, sans savoir quel va être le résultat.
Oui, il y a toujours une petite part d'imprévu, mais ouais, en même temps, ça devient quelque chose d'un peu collectif. On a envie de tous de travailler ensemble et de faire quelque chose d'extrêmement... C'est-à-dire qu'on participe encore plus, parfois, dans un premier film. Il y a quelque chose d'assez... C'est souvent, encore une fois, c'est souvent pour les réalisateurs ou les réalisatrices, le choix de l'histoire qu'on va raconter pour son premier film est quand même très important.
Autre enthousiasme là-dedans. Un grand réalisateur, c'est quand même pas mal d'avoir commencé
c'est
avec
ça.
Lui.
T'aurais été dans la famille et dans la bande.
Ouais, c'est aussi ça.
Autre grand projet, vous allez tomber enceinte.
Hein?
Vous n'êtes pas au courant?
Je vais tomber enceinte.
Oui. Vous allez tomber enceinte, oui. Ouais, avec d'autres comédiennes, vous êtes 5 femmes enceintes dans une maternité.
Ah bah oui, c'est la vie. Wow. Ah oui, non, bah, vous m'avez fait peur, parce qu'en ce moment, j'ai ma fille qui me dit quand est-ce que tu fais un autre bébé, donc tout d'un
coup... Ah pardon,
coup,
non, non, je me permettrai pas.
Ans,
non,
mais elle a passé un coup de fil à Nagui juste
c'est
avant.
C'est des conversations interminables à la maison, pardon.
Je me permettrai pas, non, non. Genre, mais elle m'a regardé, genre, mais comment tu le sais?
Non, non, mais c'est vrai, oui, c'est la vie. Je vais tomber enceinte et je vais... Tout se passe dans une maternité, c'est le film.
Ça va pas aider votre fille, si vous voyez le film.
Non, elle le verra pas. Mais c'est un film sur la maternité. Tout se passe dans une maternité. C'est Josiane Balasco qui est une sage-femme, encadrée par Nicolas Maury, qui fait un jeune gynécologue obstétricien dont c'est le premier jour. Et c'est une comédie qui se passe dans une maternité, qui a été réalisée par Julien Rambaldi, que je connais bien. Et voilà, et ça va sortir l'année prochaine.
Et puis vous allez retrouver à partir du 17
septembre. C'est un film choral avec plein de monde. Pardon, hein. Pardon, je vous interromps, mais il y a beaucoup d'acteurs. Il y a moi, il y a Florence Loireca, il y a Alice Paul, il y a donc Josiane Nicolas, je les ai cités. Je vais en oublier, c'est certain, mais on est nombreux.
Le 10 septembre, donc, vous serez au théâtre de la Porte Saint-Martin, direction Zabou Breitman pour La Dame de chez Maxime.
La Dame de chez Maxime, avec Michel Escaud, André Marcon, Christophe Paou, Anne Roger. On est nombreux, parce que La Dame de chez Maxime, c'est une grande fête.
Le fait d'eau.
Ah oui. Et on est en pleine répétition, déjà.
Et c'était déjà au théâtre de la Porte Saint-Martin que vous aviez...
J'avais fait les pièces de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri.
Ouais, absolument, on était venus.
Agnès avait mis en scène.
Vous applaudir, oui. Absolument. Roxane, c'est aujourd'hui au cinéma et les excuses, c'est tout de suite Daniel Morin.
Oui, déjà désolé pour nos auditeurs sains d'esprit qui m'ont appelé à la pause pour me faire remarquer qu'après avoir invité Jean-Jacques Henault, qui nous avait confié parler à ses pieds, on a fait la promo ce matin d'un film dans lequel le héros discute avec des poules. Pff, il est temps que la saison se termine. Hein. Désolé pour nos auditeurs sains d'esprit qui eux aussi m'ont appelé pour me signaler que notre invité ce matin a dit qu'elle embrassait Tchekhov et a déclaré son amour pour le Saint-Marcellin. Il est temps que la saison se termine. Hein. Désolé pour nos auditeurs sains d'esprit qui m'ont appelé pour me dire qu'une fois encore, les réponses d'Agnès Surstel à l'interro ont été gênantes, salissantes. Il est grand temps que cette saison se termine et qu'on parte tous à Tchernobyl avec Tanguy Pastureau.
Demain, nous recevrons Pierre Richard et qui fait son éloge à la nuit, justement en citant aussi un extrait de Cyrano de Bergerac, signé Edmond de Rostand. Décidément, il y a une grande tendance, mais on se retrouve, c'est tellement bien écrit, tellement beau. Tout le monde se retrouve, se reconnaît dans tous les prismes de Cyrano de Bergerac. Roxane, c'est aujourd'hui au cinéma. Merci Léa Drucker d'être venue autour de cette table qui vous rappelle le Palace. Et rendez-vous
c'est
demain.
Écrit là.
Oui, j'ai vu. Et rendez-vous demain avec Pierre Richard. Et passez une bonne journée avec Philippe Bertrand et Karine.
Merci Nagui, merci à l'équipe et à demain.